Radio Kapi.
Exécution du budget 2021. Plusieurs députés nationaux dénoncent une fraude budgétaire et des détournements systématiques des fonds de l'État. Cette situation condamne le pays au sous-développement, a dit Nsingi Pululu, élu de Kinshasa. Vous l'entendrez. À la une aussi, cette crainte suivie de sonnettes d'alarme. 4 sur 5 sites du patrimoine mondial en RDC classés sites en péril depuis 1990 risquent d'être retirés de la liste par l'UNESCO. Crainte exprimée par des jeunes Africains qui viennent de participer au 6e forum africain des jeunes sur le patrimoine mondial. Ils interpellent les autorités de la RDC. Et puis, l'invité de ce soir, Christelle Pandanzila, vice-présidente de la Creative District, un hub des industries culturelles créatives et des médias en Belgique. Elle s'exprime sur les attentes de la communauté congolaise de Belgique par rapport à cette organisation de promotion de la culture afro-caribéenne. Mais d'abord cette nouvelle, en visite de travail au Royaume-Uni, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un entretien de 50 minutes ce mercredi avec le roi Charles III, souverain de la couronne britannique, c'était au palais de Buckingham. Selon le compte Twitter de la présidence congolaise, la consolidation des relations bilatérales entre le Royaume-Uni et la RDC, la transition écologique et la situation dans l'est de la RDC étaient au centre de cette rencontre entre le roi Charles III et le président Tshisekedi. Madame, Messieurs, bonsoir. Exécution du budget de l'exercice 2021. Plusieurs députés nationaux dénoncent une fraude budgétaire à tous les niveaux et des détournements systématiques des fonds de l'État. En effet, l'élu de Kinshasa, Nsingi Pululu, fait observer que les fonds pour la réalisation, par exemple, des travaux sur l'avenue Nzolama dans la commune de Ngaliema ont été décaissés depuis 2021, mais ont pris une destination inconnue. À nouveau, cette route est programmée dans le budget 2023 à plus de 3 milliards de francs congolais, alors que c'était censé être réhabilité depuis 2021. Ce cas est une illustration parmi tant d'autres, dit-il, qui condamne le pays au sous-développement, estime l'élu de Kinshasa, Nsingi Pululu, le dit au micro de Michel Kifindangoy.
La réhabilitation de la route Bel Air, Bretel Bypass Kimwenza, a été financée déjà en 2021 à 50%, soit 3,058,414,011 francs congolais. Mais on vient de décaisser 6 milliards. Ce qui m'a choqué. Il n'est pas normal de voir au ministère des Finances une autorisation en paiement des procédures d'urgence de 18 milliards 565 millions 500 962 francs congolais sur un crédit de 29 millions 957 000 946 francs congolais. C'est-à-dire, on demande 29 millions de francs congolais, mais ils ont décaissé en mode d'urgence 18 milliards. Papa, même Satan Lokakaboete, il paraît, ils ont aidé un soi-disant l'Union des consommateurs congolais. Moi, j'ai appelé le président de l'Union des consommateurs congolais. Je connais cet organe. Non, non, non. Ils ont dit, ils sont surpris d'apprendre ça. C'est très honteux.
Pendant ce temps, dans la province du Lualaba, l'ONG Service Chrétien d'Animation Rurale du Katanga Skark se félicite des travaux de réhabilitation qui s'exécutent sur la nationale numéro 1, axe Ngouba-Louboudi, dans le territoire de Louboudi. Cependant, le coordonnateur national de cette ONG indique que 3 ponts situés sur cette route sont en mauvais état et cela nécessite une réhabilitation avant la tombée des fortes pluies, car en cas d'effondrement, ce territoire risque d'être isolé et le trafic perturbé. On écoute à ce sujet Gilbert Kayumba, coordonnateur de l'ONG SCARC. Il est au micro de Jean Gandou.
Il y a 3 ponts qui sont abîmés. C'est le pont Ngeleka, situé à 38 km de Louboudi centre, le pont Kasanza, qui est situé entre Mbebe et Kiabo. Il y a également le pont Lukendi, qui est détruit, mais on a créé un petit pont de fortune pour la déviation. Il faut une intervention urgente pour ne pas handicaper l'économie et le social de toutes ces provinces situées sur la nationale numéro 1. En dehors du pont Lukendi, qu'il faut reconstruire totalement. Les autres ponts, c'est les platelages en béton armé qui sont abîmés. Si rien n'est fait, nous serons coupés. Et c'est l'économie de toutes ces provinces, les Haut-Katanga, les Lualaba, les Olomami, les Grands Kasaï, qui seront handicapés sur le plan social et même sur le plan sécuritaire. Si le trafic tel que je le vois fréquent avec des grands camions reste tel qu'il est, nous risquons d'être coupés rapidement. Et c'est l'économie de toutes ces provinces qui sont le long de cette nationale numéro 1 qui seront handicapées.
Contacté, l'administrateur du territoire de Louboudi confirme l'information. Clémentine Lutanda indique qu'une délégation du ministère provincial des infrastructures est descendue sur le terrain pour évaluer la situation. Du côté de l'Ituri, les marchés communautaires dans le territoire de Djougou attirent de plus en plus des commerçants de tous les coins de la province. Selon des sources concordantes, c'est à la suite de la calmie observée depuis 3 mois, ce qui a permis la relance des activités agricoles dans plusieurs localités de cette entité territoriale. Des camions en provenance des territoires d'Irumu et de Maagi affluent chaque semaine dans ces marchés pour s'approvisionner en vivres. Isaac Remoyope revient de la zone. Voici son reportage.
Le territoire de Djougou reprend progressivement son statut de grenier de la province de l'Ituri. Plusieurs marchés, notamment à Kpandroma, à Katoto et à Boulé, drainent de plus en plus de personnes chaque semaine. De nombreux habitants venus de plusieurs villages du territoire de Djougou y apportent des vivres tels que les haricots, les maïs, les soja, les pommes de terre, les choux, les arachides et même du café. Des commerçants venus de plusieurs centres commerciaux, dont Bounia, Mungwal ou Igabarrière, affluent dans ces marchés avec des camions pour s'approvisionner en vivres. Selon la cité civile, ces transactions ont permis la relance et l'économie des ménages qui étaient appauvris par la guerre. Son président estime à 40% les taux des activités économiques et agricoles dans cette entité. Désiré Malodra.
Et si nous voyons la vie maintenant à Bounia, c'est grâce aux vivres qui arrivent de Boulé et les vivres qu'apportent les différentes communautés des territoires de Djougou.
Pour les chefs du marché de Boulé qui accueillent plus de 3000 personnes chaque jour du marché, cette reprise des activités est due à la cohésion sociale entre les différentes communautés depuis la cessation des hostilités par les groupes armés. Il ajoute que ces efforts doivent être consolidés pour accroître la production dans la zone. Avant, il n'y avait pas cohabitation entre la population, mais aujourd'hui, les gens commencent à se fréquenter. Il faut que les gens retournent dans leur milieu pour cultiver les champs.
Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Restons en Ituri pour signaler qu'environ 70% des habitants qui ont fui les exactions des rebelles ADF dans la chefferie de Boga, 120 km au sud de Bounia, ont regagné leur village d'origine. Ce à la suite de la calmie qui s'observe dans la zone depuis le lancement de la 4e phase des opérations conjointes FARDC armée ougandaise pour traquer ces rebelles. La société civile locale s'en réjouit mais demande aux forces conjointes d'intensifier ces opérations pour consolider la paix dans la zone et permettre le retour d'autres déplacés qui ont fui depuis 2 ans. Le point avec Ezekiel Mousalia.
La 4e phase des opérations conjointes FARDC-UPDF semble avoir atteint son objectif, celui de ramener la paix dans le centre des Boga et Tchabi secoués par l'activisme des rebelles des ADF. Selon plusieurs sources locales, il s'observe depuis 2 mois une forte concentration de la population dans le groupement Ruzinga, Bundundu, Boarangi, ainsi que vers l'aérodrome des Boga. Ces deux forces y ont installé leurs différentes bases pour assurer la protection des civils et anéantir tous les foyers de l'ennemi éparpillés dans la forêt. Des sources concordantes dans la région indiquent que ces opérations ont permis la relance des activités commerciales, entre autres dans certaines entités, dont Zunguluka et Tchabi. Un habitant témoigne.
Leur présence ici apporte une sécurité totale dans notre milieu. La population est très contente, cela permet les retours de la population. Ils peuvent être au-delà de 7000 personnes. D'autres ne sont pas encore retournés à cause de l'insécurité. La présence des forces ougandaises apporte beaucoup d'espoir.
Signalons qu'à ce jour, plus de 14 000 personnes sont encore en déplacement dans d'autres localités, notamment à Bounia, Kiaza et Kangwale, proches de l'Ouganda, selon le dernier rapport de la société civile locale. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Je vous l'ai dit dans le titre, 4 sur 5 sites du patrimoine mondial en RDC, classé un site en péril depuis 1990, risque d'être retiré de la liste par l'UNESCO si aucun effort n'est fait par les autorités du pays. Il s'agit des parcs de Virunga, Kahuzi-Biega, Garamba, ainsi que la réserve de faune Okapi notamment. Ce sont des jeunes Africains qui expriment cette crainte et alerte. C'était lors du 6e forum africain des jeunes sur le patrimoine mondial, forum tenu la semaine dernière au Cameroun. Le jeune Congolais représentant la RDC dans cette rencontre continentale interpelle le gouvernement congolais. Il lui demande d'appuyer les institutions gestionnaires de ces sites et ramener la paix et la sécurité dans ces zones. Alain Mukirania s'exprime au micro de Denise Lukeso.
Nos sites ici au Congo sont classés en péril la plupart depuis les années 90 et jusqu'à aujourd'hui, dans le parc national de Virunga, le parc national de Kahuzi-Biega, le parc national de Garamba et la réserve de faune Okapi qui sont encore en péril. Et si rien n'est fait pour améliorer la gestion et sécuriser ces sites, nous avons la crainte, nous, la jeunesse qui va vivre le futur, nous avons peur que ces sites perdent leur valeur universelle exceptionnelle. Et une fois les sites ont perdu ces valeurs-là, bien sûr l'UNESCO peut décider de retirer les sites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà notre alerte au gouvernement de faire tout pour améliorer la gestion de ces sites et sécuriser ces zones parce que c'est de cela qu'ils souffrent, ces sites qui sont en péril. Le gouvernement doit appuyer les institutions gestionnaires de ces sites, mais aussi faire de son mieux pour sécuriser, ramener la paix et la sécurité dans ces zones.
Rappelons que le site du parc de la Salonga, classé en péril, est désormais validé depuis cette année 2022. Dans l'actualité aussi, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'ONG Mounazamat, organise du 23 au 30 octobre en cours une campagne gratuite des soins ophtalmologiques à Kinshasa. Cette campagne comprend aussi la distribution des lunettes et des opérations chirurgicales de la cataracte. Le ministre de la Santé appelle ainsi les Kinois concernés à aller s'inscrire à l'hôpital général de Kinshasa, ex-Mamayemo. L'appel du docteur Jean-Jacques Mbungani dans cet extrait proposé par Alain Rung.
Chers compatriotes, sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, en collaboration avec l'ONG Mounazamat, une campagne de chirurgie ophtalmologique sera organisée du 23 au 29 octobre 2022 pour opérer les personnes souffrant de la maladie de la cataracte. Vous êtes donc invité à vous enregistrer à l'hôpital général de référence de la ville province de Kinshasa dès aujourd'hui. Il est important de rappeler que cette campagne est totalement gratuite.
Dans l'actualité aussi, cette bonne nouvelle au Kasaï oriental, les résultats de l'examen d'État édition 2022 pour l'Institut technique Union COP de Mbujimayi ont été finalement changés. En effet, l'inspection générale de l'EPST a revu les résultats de la filière électricité de cette école dont le résultat initial était néant et pour cause, d'après l'inspecteur principal provincial de la province éducationnelle Kasaï oriental, le code attribué à cette école ne correspondait pas à celui que détenait ses élèves. Vérification faite, 43 élèves sur 75 avaient réussi à l'examen d'État. Les résultats ont été communiqués mardi par Stanislas Kabea Chibaka, coordonnateur des écoles conventionnées catholiques. Il explique au micro d'Esther Ndalafina.
Il faut vous dire que j'étais dans la joie. Je crois que prochainement, on fera beaucoup plus attention. Évidemment, c'est presque 75% de réussite. C'est 43 élèves sur une septantaine. Nous avons encouragé les autres à reprendre l'ITI de Lyon-Cop. C'est une grande école technique qui a formé au Kasaï. Que leurs parents ne se découragent pas, qu'ils nous fassent confiance. Nous sommes là pour encadrer leurs enfants et bien encadrer d'ailleurs. J'ai à ma possession la liste, même les noms des élèves qui ont réussi. Mais que leurs parents viennent déjà à la coordination ou bien qu'ils passent directement à l'école pour s'enquérir de la vraie situation de la filière électricité à l'ITI de Lignocop. J'ai été superviseur dans ce centre, j'étais saisi du dossier, c'était une erreur technique, c'était glissé pour une école conventionnée. Les enfants avaient reçu le code d'une école non conventionnée. Voilà, tout est parti de cette erreur qui était déjà signalée. Un coup de chapeau à l'équipe dirigeante de notre province éducationnelle. Merci à Madame Lipépé de notre province éducationnelle Kasaï Oriental pour sa bravoure, pour cette démonstration d'une bonne collaboration. Je parle du Proved et je parle du Prosec à qui j'ai dit merci pour leur implication et de tous les héros à l'ombre qui nous ont aidés.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Tchad. Il faut désormais utiliser la pirogue pour circuler à Walia, ce quartier situé au sud de la capitale tchadienne et sous les eaux après des pluies exceptionnelles. Le niveau des eaux est monté jusqu'à 5 mètres selon le pouvoir public. Une première, des populations tentent ce qu'elles peuvent, des ruines de leurs maisons. Plus de 60 000 personnes ont été touchées ici par les inondations. Les cas suspects de choléra continuent d'augmenter en Haïti, alors que l'OMS et l'ONU s'inquiètent d'une flambée épidémique dans un contexte sécuritaire de plus en plus dégradé. Médecins sans frontières a lancé une mission d'urgence pour soutenir les autorités sanitaires.
L'invité.
Comme annoncé, ce soir nous recevons Christelle Pandanzila, vice-présidente de la Creative District, un hub des industries culturelles, créatives et des médias en Belgique, très connue et impliquée dans le milieu associatif pour avoir créé Root Event, une organisation de promotion de la culture afro-caribéenne. Christelle Pandanzila s'exprime sur les attentes de la communauté congolaise vivant en Belgique et particulièrement à Bruxelles. Notre reporter Cynthia Bachizi, en mission actuellement à Bruxelles, l'a rencontrée. Suivez leur entretien.
Christelle Pandanzila, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes très connue ici à Bruxelles, très connue dans le milieu associatif. Vous êtes aussi entrepreneur. Alors, comment la communauté congolaise est organisée ici à Bruxelles?
Très vaste, parce qu'on fonctionne aussi, en tout cas pour les plus âgés, ils fonctionnent encore beaucoup par peuple. Donc, on va avoir les Balouba qui vont être ensemble, on va avoir les Mouswahili qui vont être d'un côté, etc., quand il y a des choses culturelles qui doivent se mettre en place. Donc, c'est vraiment par communauté, par langue, par affiliation. Et ensuite, dans les plus jeunes, il y a beaucoup plus d'unité qui se fait. Surtout ceux qui sont nés ici connaissent encore très mal peut-être leurs origines et les affiliations.
Alors, est-ce que c'est réducteur de dire que les Congolais se retrouvent uniquement en Matongé, ou si on veut parler de la communauté congolaise, on voit directement Matongé?
Mais il y a une lecture déjà historique, parce que effectivement Matongé, bon, le nom relie à ce quartier, cette commune même fameuse de Kinshasa, et aussi le quartier Matongé est l'endroit où il y a toujours d'ailleurs la maison africaine qui a accueilli les premiers étudiants congolais. Comme anecdote, quand ils arrivaient à Zaventem à l'époque, s'ils ne savaient pas où aller, les douaniers eux-mêmes appelaient la maison africaine pour les prévenir qu'un ressortissant donc du Congo était présent sur le sol congolais. Donc oui, ça a eu lieu de retrouvailles, mais aujourd'hui, le quartier Matongé est un quartier qui est vraiment panafricain, et au-delà de ça, c'est un quartier qui s'est gentrifié. Donc on a d'une part énormément donc de Flamands qui se sont installés par des incitants offerts par la communauté flamande. Il y a d'un autre côté aussi la communauté européenne, parce que le quartier tend à se réduire. Et donc petit à petit, il va en rester quasiment plus qu'une rue, et peut-être le nom anecdotique de Matongé, mais quand on s'y promène, Matongé n'a plus la couleur.
Cette connotation.
Oui, congolaise. Il y a des Camerounais, il y a des Rwandais, il y a des Sénégalais, il y a de plus en plus d'ailleurs de Sénégalais et de Guinéens. Et les prix sont extrêmement élevés, donc.
Les prix de quoi? Des logements?
Les prix des logements, c'est extrêmement élevé. Donc, les Congolais n'habitent pas à Matongé. Et si on regarde en termes de recensement et de population, là où on peut trouver le plus gros contingent de diaspora congolaise, c'est dans la commune de Saint-Josse.
Alors, on découvre que la population ou la communauté congolaise n'a pas telle puissance économique. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Nous, de l'autre côté, au Congo, on a vraiment l'impression que le Congolais peut même représenter une certaine influence économique, mais on se rend compte ici que c'est pas le cas. Comment ça se fait?
Voilà, les gens ont travaillé dans des sociétés, sont salariés, etc. Et comme je disais, il faut mettre le pied dans la porte, la laisser ouverte pour que d'autres puissent suivre. Il n'y a que comme ça qu'on peut avoir du poids. Et ça, on n'a pas encore.
Donc vous plaidez pour une certaine solidarité?
Oui, tout à fait. On n'a pas encore cet esprit de solidarité. C'est plutôt de l'individualisme. Je suis là et je veux être la seule. Quand on regarde nos frères maghrébins, On a l'impression de l'extérieur de cette communauté maghrébine qu'ils sont vraiment solidaires entre eux. Ici, la communauté maghrébine, en termes d'entrepreneuriat par exemple, elle a beaucoup de poids, en termes politiques aussi, parce que justement, quand quelqu'un est là, il va faire entrer l'un de ses frères ou l'une de ses sœurs. Et c'est comme ça qu'on peut avoir du poids. Et ça, nous, les Congolais, on doit apprendre à faire ça.
Dernière question, quelles sont les grandes difficultés rencontrées par cette communauté, les Congolais de Bruxelles?
Mais si on a toujours la nationalité congolaise, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas le soutien de l'État, même pour des choses simples comme l'obtention des papiers, l'obtention d'un certificat de naissance, l'obtention d'un passeport. On peut attendre des années avant d'avoir son passeport. Alors qu'on sait aujourd'hui que c'est vraiment primordial, même si on est dans l'espace Schengen, si on va en France et qu'on n'est pas, français ou belge, on est d'origine congolaise, on peut se faire arrêter à la frontière si on n'a pas le passeport qui vient avec la carte d'identité. Donc ça, c'est un réel problème parce qu'on ne peut pas se tourner en fait vers l'État. On ne peut pas se retourner vers l'ambassade. Si vous ne connaissez pas quelqu'un là-bas, vous allez passer des jours et des heures et vous n'aurez toujours pas de réponse. Et on ne peut pas avancer sans être organisé. On en revient vraiment à ça. Ça doit être, c'est de la tête jusqu'en bas qu'on doit être organisé. Et jusqu'à présent, ce n'est toujours pas fait.
Christelle Pandanzila, je vous remercie.
Merci beaucoup.
La vice-présidente de la Creative District répondait aux questions de Cynthia Bachizi Nabizana. Ainsi prend fin ce journal, supervisé par Alain Rung Mushinj, coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.